Tu crois qu'on nous reconnaît à la voix après 2 saisons dans l'agité du local?
Ah ben, toi, sûrement. Quant à moi, je préfère rester l'amoureux de Mimi, l'anonyme.
Je reste convaincue que la musique fait plus que remplir une salle. Elle ouvre des portes. Des portes vers des histoires qu'on n'a pas toujours entendues, vers des voix qu'on a trop longtemps laissées au fond du mix, vers celles qu'on n'a pas cru légitimes d'ailleurs pour prendre le micro. Alors on a inventé un festival qui ne fait pas seulement joli dans la programmation, mais qui permet aussi et surtout de changer un peu la manière de regarder la scène. Elle Festival, ça sonne comme un pluriel généreux, c'est une belle promesse je trouve. Elles sont là, elles étaient déjà là, mais cette fois on les écoute. Ce que je vois de ce festival, c'est que derrière la fête, il y a la réflexion, derrière la lumière, l'ombre qu'on interroge, et derrière chaque concert, exposition, rencontre, une question que je me pose. Est-ce que ce festival est seulement un événement ou déjà un mouvement? Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Mélanie Alétru, directrice du projet artistique et culturel du Shabada à Angers. Elle sera avec nous en première partie d'émission pour l'entretien du jour. Et puis ensuite, on prendra la route des champs, direction Domagny et Changé, pour parler luzerne. Face aux défis environnementaux, cette plante s'impose comme une alternative durable pour l'alimentation animale, peu exigeante en intrants, bonne pour les sols et les nappes phréatiques. On écoutera un reportage Pensée locale que j'avais réalisé avec Samuel Maignan, directeur général de la coopérative Dizzy West qui développe cette filière en Mayenne et en Bretagne. Et puis avant de se quitter, on prêtera l'oreille à Soizic, notre écho de l'écho du jour. Notre chroniqueuse nous parle du prix Nobel d'économie, un prix qui chaque année dit beaucoup, je trouve, sur la manière dont on rêve ou non l'avenir de nos sociétés. Voilà, vous êtes au courant de tout, ce qui vous attend aujourd'hui, enfin ce qui nous attend puisque nous sommes ensemble dans l'agité du local. Je suis Margot et j'espère que l'auditeur de l'autre radio est bien attentif, que l'auditeur de l'autre radio est bien installé. Je sais que pour beaucoup c'est la reprise aujourd'hui. C'est bien de se donner rendez-vous ces jours-là, d'atterrir ensemble. Et d'ailleurs je vous propose de décoller ici en Mayenne et de faire un petit trajet puisque notre entretien du jour nous emmène jusqu'à Angers, au Shabada. C'est parti.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Il y a des festivals qui remplissent des salles et puis il y a ceux qui essayent de faire bouger le monde. Le L Festival revient à Angers pour sa 3e édition avec plus de 30 rendez-vous pour danser, réfléchir, débattre, rêver. Sorcières, pop, dance floor, lutte et liberté derrière les concerts, il y a une question simple. Est-ce que ce festival est un événement ou déjà un mouvement? C'est une question que moi que je me pose. J'ai le plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui à Mélanie Alétru. Vous êtes la directrice du projet artistique et culturel du Shabada. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Le L Festival, peut-être pour commencer, pour l'auditeur de l'autre radio qui ne connaîtrait pas, qu'est-ce que c'est ?
Le L Festival, c'est un temps fort qu'on organise tous les 2 ans. C'est le Shabada, avec une quinzaine de partenaires, en l'occurrence, sur le territoire angevin. Donc, tous les 2 ans, on se réunit on propose pendant une dizaine de jours. C'est le format en tout cas sur lequel on est parti depuis la 2e édition. Un temps fort avec des tables rondes, des concerts, des ateliers pratiques, plein de choses, des expositions cette année aussi, plein de choses qui évoquent cette question d'égalité et des genres, la place des femmes dans les musiques actuelles et cette envie surtout et cette envie de porter cet enjeu le plus largement possible.
Ce rendez-vous commence le 13 novembre, il s'étend jusqu'au 22 novembre. Comme vous avez pu le dire, il en est à sa 3e édition. Qu'est-ce qui a évolué peut-être depuis la toute première édition et est-ce que vous sentez un changement dans les mentalités chez les artistes comme chez le public?
Alors, si on prend déjà le L, ce qui a changé, c'est déjà le format, parce qu'on est passé 2 jours à 10, hein, donc ça change un petit peu la proposition et les contenus. On est passé aussi d'une proposition qui a été vraiment plutôt à destination des personnes concernées ou des personnes du secteur, des professionnels du secteur, à une proposition beaucoup plus large, puisque l'objectif vraiment là, c'est de proposer quelque chose dans lequel chacun, chacune peut trouver une proposition, une porte, à lui, quelque chose qui peut le titiller, lui donner envie de venir passer un moment avec nous. Donc vraiment, un temps fort tout simplement ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est une révolution sur la proposition aussi. Du coup, ça a amené beaucoup plus de concerts. Ça a amené aussi cette envie d'aller gratter ce qui se cache derrière des figures un peu de la culture populaire. Donc la sorcière, en l'occurrence, la star cette année, Eden Floor. Voilà, donc c'est plein de formats qu'on a proposé. Puis cette explosion aussi, en tout cas, c'est le fait d'être entouré. Alors depuis le démarrage, on voulait, mais là, c'est vrai que c'est de plus en plus prégnant qu'on est une dizaine de, enfin une quinzaine plutôt de partenaires autour de la table pour accueillir cet événement. Donc quelque chose qui inonde un peu la ville, et c'était un peu l'objectif. Donc voilà, c'est une forme en fait en extension, on va dire. Oui, je pense que les gens, en tout cas, sont de plus en plus, pour la deuxième question, les gens sont de plus en plus attentifs à ça. En tout cas, le secteur, si je prends le secteur des musiques actuelles, l'est, ça c'est évident. Et depuis la première édition, depuis 2021, il y a très clairement une évolution sur ce champ-là. C'est-à-dire qu'il y a, de toute façon, on est aussi, par les pouvoirs publics, régulièrement questionnés sur ce qu'on fait, en fait, sur la question d'égalité. Mais je pense qu'il y a aussi... d'une façon collective, une prise de conscience qu'il y avait des écarts et que qu'il est important pour le bien de tout le monde, en fait, tout simplement de la société, que ces écarts se diminuent.
Quand on regarde donc le titre du festival, c'est le L Festival. Quand on regarde dans le détail de la programmation, effectivement, le L signifie beaucoup, beaucoup de personnes. Quels sont ces L dont on parle ?
On parle... Alors, cette année, on va parler de L... qui sont des figures fortes, des figures féministes repérées, des figures inspirantes. Il y a toujours eu cette envie, en tout cas autour du L, d'être sur cette figure féminine inspirante et puis sur la question du matrimoine. On continue à être là-dessus. Première édition, c'était vraiment, on avait fait le diagnostic. La deuxième, on était plutôt sur la logique du corps et de l'intime. Là, cette troisième, on est aussi sur la question du corps d'une certaine façon, mais sur cette idée de se dire comment on prend une place et comment certaines ont pris une place dans l'histoire, ou dans l'histoire de la musique, ou dans l'histoire tout court, dans notre imaginaire. Donc, c'est le cas des sorcières. On a travaillé sur cet imaginaire qui nous a un peu... qu'on a tous autour de la sorcière, et donc d'analyser toujours pareil, un peu comme la pop culture, de regarder un peu les côtés positifs et les côtés négatifs d'une figure comme celle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle draine en fait comme imaginaire sur les femmes fortes, et comment elle a évolué dans le temps. Donc on aura le plaisir d'être avec Laïla Jaloui là-dessus, et puis finalement on aura plein de sorcières aussi du coup dans cette programmation, donc plein de personnes en fait qui vont triturer, affirmer en fait une position artistique assez forte, avoir des propos affirmés, voilà. Donc c'est nos sorcières à nous finalement qui seront là, on commencera par Colline évidemment, mais plein d'autres. Il y a une expo, alors chaque thématique en l'occurrence aura une expo, c'est un petit peu la nouveauté de cette année, et là l'expo en l'occurrence sera au 4, donc à I'm a Witch, qui sera justement pareil, une manière d'illustrer la figure de la sorcière en fait dans le temps ou dans l'histoire de l'art. Et idem sur une autre proposition qui sera même à l'ouverture avec Joséphine en l'occurrence au cas directement. Donc là c'est une première figure. La deuxième en fait qu'on va regarder tout particulièrement, ce sera la figure de la pop star. Alors, la pop star pourquoi ? Parce qu'en fait cette esthétique-là au démarrage, les femmes à l'intérieur étaient très sexualisées, très objets finalement. On imagine les pin-up et ainsi de suite. C'était un peu quand même ça. Puis finalement, on s'est rendu compte que ces femmes-là ces artistes-là, en fait, ont repris la main sur leur corps, sur leur image, sur leur art, et sont devenues, en fait, fortes, du coup, dans cette esthétique. Donc, on parlera de Madonna, Taylor Swift, tout en ayant, du coup, là encore, comme les sorcières, le revers de la médaille de ce parcours d'empowerment au féminin. C'est-à-dire aussi énormément de critiques en fait dans ce parcours-là ou d'obstacles qu'elles ont dû passer. Donc on aura une expo en l'occurrence là sur Britney, puis plein de concerts évidemment pop. Hein, du coup, que ça soit, on parle de, je pense à Yoa, je pense à Suzanne. Voilà, c'est des personnes qui portent en plus des paroles fortes du coup sur la situation des femmes, sur le féminisme. Et voilà, c'est vraiment à l'image en fait de ce qui se passe dans la pop culture actuellement. Dans les grandes figures, évidemment, autour de la sorcière, il y a évidemment Patti Smith et puis Debbie, donc Blondie, qui sera une des premières conférences. Et ce qui nous intéresse, en fait, dans ces figures-là, c'est vraiment que c'est des premières femmes inspirantes, dans le sens où elles ont, elles, l'une comme l'autre, représenté une figure du punk féminin, au féminin, enfin femme, une forme de libération du coup aussi par rapport à ce qu'on imaginait d'être artiste femme, l'une parce qu'elle a écrit du coup avec une figure très androgyne et l'autre juste à l'inverse en ayant une approche très sexualisée en fait et très sexualisée, pas spécialement du coup toujours en accord, mais par contre l'une comme l'autre en fait ont marqué leur époque et surtout ont ont inspiré plein d'artistes derrière, ont ouvert une voie incroyable en fait dans dans la ligne punk rock derrière du coup qui était complètement ou dans lesquelles les femmes étaient peu présentes, en tout cas, elles n'avaient pas la parole et surtout, elles ne composaient pas. Donc voilà, c'est nos sorcières à nous, finalement, dans le champ de musique actuelle, c'est typiquement ces figures-là, quoi. Et donc, troisième cycle en effet fort, c'est autour du dance floor, comme je disais, donc avec cette envie de rendre visible des esthétiques. Alors, on l'avait fait l'année dernière aussi autour du twerk. On travaille beaucoup avec le CNDC, en l'occurrence là-dessus. C'était vraiment l'idée de les chercher, en fait, des esthétiques danse, musique qui renvoie en fait à une culture potentiellement un peu mal comprise, enfin en tout cas une danse mal comprise historiquement on va dire et sur le sens qu'elle porte. Donc le twerk c'était vraiment ça il y a 2 ans, puis là du coup on s'est dit qu'on allait regarder côté voguing. Alors c'est pas tant qu'elle est mal comprise celle-là, mais c'est vraiment qu'elle est très présente, en l'occurrence de plus en plus présente dans notre univers, dans la danse, elle influence la danse, la mode et ainsi de suite. Et ça nous paraissait important, elle est très présente, le voguing est revenu, le ballroom en fait est revenu un peu partout, donc c'est une communauté qui est très présente sur le territoire, et donc ça nous paraissait intéressant de la faire venir à Angers. Et ce qui est intéressant en fait, que ça soit sur le voguing ou le disco qu'on va aussi évoquer, c'est que ce sont des esthétiques, des pratiques, enfin des dance floor du coup, des pratiques dansées, du coup qui sont à la base portées par des minorités opprimées, donc plutôt noires, gays, voilà, qui sont créées des espaces safe pour pouvoir être ce qu'elles veulent, ce que les personnes veulent être, et d'affirmer cette fierté-là, d'être ce qu'elles sont. Et puis, finalement, cette question-là, on la retrouve, nous, sur les questions de dance floor telles qu'on les pense actuellement, dance floor safe, qui doit permettre, en fait, à chacun et à chacune d'être ce qu'il veut être sur un dance floor sans craindre pour son intégrité ni le respect de sa personne. Et donc, on s'est dit, tiens, là, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui nous a été inspiré, en fait, du coup, de ces mouvements d'origine 1920, si je prends le voguing, hein, donc c'est vieux quand même, le disco, c'est plutôt 1960-1970, de ces minorités, de cette culture, en fait, parfois qu'on oublie, et c'était aussi une manière de rendre, faire un clin d'œil en disant, bah, la culture queer, en fait, on a aussi des inspirations de leur côté. Il y a la grosse exposition disco qui avait été à la Philharmonie cette année, présente dans les murs de la Philharmonie pendant quelques mois. Patrick Thévenin sera avec nous autour de la table pour nous en parler. Et c'est vrai que c'était aussi un peu un clin d'œil à cette expo-là et à la l'intérêt de renouveler peut-être pour des cultures peu regardées mais qui sont en train de redevenir au devant de la scène. Et surtout ne pas oublier en fait l'histoire de ces esthétiques là, voilà, de leur rendre hommage grosso modo et me dire bah voilà, il y a un espèce de fil conducteur là du coup sur lequel on est encore et qui nous amène à réfléchir à ne faire aujourd'hui. Et ça a commencé potentiellement dans les scènes de ballroom en fait de 1920 des États-Unis avec les Afro-Américains gays, voilà.
Et alors, pour tous ces différents temps dont vous venez de nous parler, j'invite l'auditeur de l'autre radio à se rendre sur le site du Shabada, sur l'onglet effectivement du Elle Festival, pour retrouver les différents rendez-vous dont vous venez de nous parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi quand on parle de mixité, d'égalité, on pense souvent effectivement à la programmation, mais comment ça se traduit aussi peut-être dans les coulisses, par exemple, du Shabada ou ailleurs ?
C'est au quotidien, parce qu'en effet, ouais, le L, c'est un temps fort, mais c'est pas le quotidien de notre engagement sur cette question-là. Ça va être dans les coulisses, ça va être tout simplement de faire attention à une présence mixte, du coup, dans les équipes. D'essayer, parce que voilà, en effet, la question d'égalité, tout l'enjeu en fait sur la question d'égalité, c'est d'arriver à inciter en fait des personnes, en fait des femmes en l'occurrence, à venir, mais aussi de faire évoluer en fait l'écosystème. dans l'acceptation en fait d'une différence du coup à plein d'endroits. Alors là on est sur la question de l'égalité, mais à vrai dire c'est la même question qui pourrait se poser sur toute forme de discrimination quelle qu'elle soit. Et donc c'est aussi un axe en fait sur la lutte contre le sexisme ordinaire en fait d'une certaine façon, qui est un des autres axes, le quatrième en l'occurrence du festival. Et au quotidien c'est c'est s'assurer que les équipes soient mixtes par exemple, du coup que ça soit en termes techniques par exemple, c'est d'avoir des techniciennes autant que des techniciens, c'est d'avoir aussi une attention sur la programmation évidemment, c'est d'avoir une attention sur les intervenants et intervenantes dans le milieu scolaire, c'est d'avoir une pensée, une écriture en fait inclusive pour que chacun, chacune se retrouve dans la manière dont on écrit et on présente le programme, c'est d'avoir des ateliers à destination des musiciennes et minorités de genre, ce qu'on fait aussi pendant le L hein, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs ateliers de cet acabit-là. Mais c'est des ateliers qu'on propose à l'année aussi, du coup, pour inviter à être musicienne ou à développer des pratiques ou à rencontrer des partenaires de jeu. C'est un peu d'essayer à tous les endroits où on peut, nous, à notre échelle, faire une salle de concert, agir, d'essayer d'impulser cette volonté. Après, on ne transforme pas le monde, mais on contribue à notre niveau, grosso modo, essayer de faire bouger des lignes à l'échelle d'un lieu comme le nôtre, quoi.
Oui, puisque j'ai pu lire que vous avez déclaré que le Shabada voulait être un lieu ressource, pas seulement une salle de concert. Et vous, en tant que femme à la tête du Shabada, en fait, vous faites partie des 20% de femmes à la tête de SMAC. C'est encore un chiffre faible, finalement, par rapport aux attentes et aux espoirs qu'on peut avoir.
Oui, si je prends mon cas personnellement, on est moins de 20% femmes en direction de SMAC. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit... vraiment très très proche d'une forme de parité. Donc après c'est un état de fait hein, du coup c'est et on peut le retrouver sur d'autres et une secteur et d'autres postes, en effet c'est pas l'esthétique sur lequel pour le moment en tout cas il y a le plus de direction, ça c'est certain. Voilà. Donc après c'est comment du coup on travaille en fait là-dessus à bouger ces lignes-là du coup qui sont historique en fait, puisque je pense que enfin le secteur c'est tout un peu enfin c'est construit sur un réseau qui était principalement masculin. Donc voilà, c'est comment on bouge après les lignes là-dessus. Moi j'ai tendance à penser que c'est plus des lignes, mais comme du coup la question en fait cette question-là d'une façon générale dans la société, enfin, en tout cas il y a pas je ressens pas dans notre secteur en fait un refus massif en fait de faire bouger les lignes. Par contre c'était une situation en fait existante, voilà, donc c'est comment on fait bouger ces lignes-là pour que chacun chacune le vive bien grosso modo et soit conscient de la réalité de la situation. Mis à part ça, c'est que on sait quand même par contre que la petite phrase la petite situation, la petite phrase de sexisme au quotidien grosso modo qui peut exister dans notre secteur, tout comme je pense en fait d'autres secteurs, soit dit en passant, est un des facteurs en fait qui fait que dans un milieu qui est principalement en fait masculin à la base, les femmes en fait ne trouvent pas toujours place. Donc il y a une vraie attention, et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un aspect sur lequel on essaie de bosser, c'est de faire attention à la manière dont on accueille les personnes en fait au sein du lieu et de s'assurer surtout que ces petits réflexes en fait que hommes comme femmes potentiellement on a intégrés dans nos éducations, on essaie de les mettre en perspective, les questionner, les relativiser, surtout pas de les appliquer pour que qu'on ne colle pas une étiquette en fait à une personne quand elle arrive dans le lieu, quoi. C'est plutôt ça. Et je pense que c'est vraiment le premier premier travail qui est pas le plus évident hein, c'est vraiment d'essayer de déconstruire nos images préconçues héritées de décennies voire de siècles en fait de d'approche genrée en fait sur plein de questions et d'essayer de déconstruire ça pour réinventer ou réouvrir des possibles en fait pour chacun chacune à la hauteur de ce qu'elle a envie d'être. C'est-à-dire, en effet, moi si j'ai envie de prendre une direction, oui, une direction généralement est plutôt masculine, en tout cas dans la représentation collective, comment du coup on se casse cette image là pour se dire que ça ne change rien quand c'est une femme qui l'est en direction. Elle peut très bien assurer cette fonction là. Voilà, mais c'est plein de c'est vraiment des questions de représentation et c'est un peu ce que je disais sur la sorcière. En fait, cette question-là de représentation est hyper intéressante à déconstruire parce que c'est le principal problème, à vrai dire, sur lequel on se trouve intimement en fait confronté. Et je pense qu'on est tous porteurs et porteuses finalement de potentiel sexisme en fait dans nos réflexions. C'est une vraie plaie. Hein, on va être, enfin, voilà, donc du coup, c'est comment du coup on construit, on travaille là-dessus. Et moi, c'est vraiment un aspect sur lequel l'EL, en tout cas, on travaille là-dessus. Et nous, au quotidien, on essaie de travailler vraiment là-dessus pour ouvrir les possibles. Parce que c'est vraiment la question, ouvrir les possibles.
Et alors, donc, je le rappelle, le L Festival commence le 13 novembre. Il se termine le 22 novembre. Pour terminer, Mélanie, est-ce que vous imaginez un jour ne plus avoir besoin d'un L Festival? Est-ce qu'on en est loin? J'imagine qu'il y a encore du chemin.
Alors, j'adorerais pouvoir dire que ça sera le cas très prochainement. Je pense qu'il y a encore plein de choses à travailler. Ce qui est bien, c'est déjà de se dire qu'il y a du mouvement. Et ça, finalement, je me dis que c'est déjà pas mal de choses. C'est déjà beaucoup, finalement, de dire qu'il y a du mouvement. Ce qui est assez intéressant sur ces questions-là, du coup, c'est que en avançant dans l'âge, finalement, ou l'avançant dans le temps, on se rend compte qu'il y a toujours encore à creuser un autre petit aspect dans lequel c'est peut-être confiné à un bout de sexisme. Donc, je pense qu'on a encore quelques années à travailler. Après, j'ose espérer quand même qu'un jour, la question de la parité et de l'égalité ne sera plus une question et qu'elle sera juste une évidence pour les uns et les autres et les unes et les autres, et qu'on ne se posera pas la question du sexe pour savoir si elle a légitimité à être tel ou tel endroit, ou que le sexe ne déterminera pas aussi son sentiment de légitimité ou de confiance en soi pour accéder à telle ou telle fonction ou tel endroit. Voilà. C'est tout ce que je peux nous souhaiter. Après, je pense qu'en effet, on a encore quelques petites années quand même devant nous. Malheureusement, le tout, c'est qu'il est principal. Enfin, le tout, c'est qu'on continue en fait à proposer ces temps-là et proposer et agir en fait collectivement pour avancer sur cet aspect-là. Et surtout, parce que l'objectif, c'est moi, j'ai tendance à penser que ces mouvements-là, enfin, ce travail-là, il est bénéfique pour tout le monde. Il faut juste pas l'oublier que c'est bénéfique pour tout le monde de casser en fait des stéréotypes. Et qu'il faut que ça reste joyeux, en fait, et qu'on se dise que finalement d'avancer sur cette question-là, c'est aussi se proposer à terme, en fait, avancer dans une société plus joyeuse et presque plus égalitaire, et que l'un ne va pas sans l'autre d'une certaine façon. Voilà, donc, c'est un long mouvement, sûrement, l'histoire nous le prouve, mais essayons de le garder joyeux, festif et musical, si on parle de notre cas. Voilà.
Bien, en tout cas, donc, merci Mélanie pour inviter l'auditeur de l'autre radio à avancer joyeusement sur ces questions-là. Eh bien, on retrouve l'ensemble de la programmation sur le site du Shabada, donc pour cette troisième édition du L Festival. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir accordé ce temps.
Merci à vous et à très bientôt.
À bientôt.
Pas besoin de passeport, vous êtes déjà dans l'agité du local.
Et pour prolonger cette conversation autour de l'égalité et des voix féminines dans la musique, on écoute Suzanne. Elle sera d'ailleurs sur la scène du Shabada le 15 novembre à 19h45 dans le cadre du L Festival. On écoute tout de suite Viril.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Viril, fille viril, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Viril, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je...
viril. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile.
Face aux défis environnementaux, la culture de luzerne pour l'alimentation animale s'impose comme une alternative durable, peu exigeante en intrants et bénéfique pour les sols. Elle permet de réduire l'usage des pesticides et préserver la qualité des nappes phréatiques. La coopérative Daisy West s'engage à développer cette filière en augmentant les surfaces cultivées en luzerne. Une transition portée par les agriculteurs ligériens et accompagnée par les experts de la coopérative. Alors je vous emmène à la rencontre de Samuel Meignan, directeur général de la coopérative Daisy West, située à Domagné. Échanger, il nous aide à mieux comprendre les enjeux liés au développement de cette culture. C'est la rediffusion d'un reportage Pensée Locale. Vous l'avez compris, écoutez.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Face à la pollution des eaux par les intrants agricoles, la luzerne pourrait être une alternative. Peu gourmande en engrais et pesticides, elle séduit de plus en plus d'agriculteurs. Mais alors comment développer cette filière à grande échelle? C'est justement l'enjeu du projet porté par la coopérative Daisy West qui possède deux sites, l'un à Domagné en Ille-et-Vilaine et le second à Changé en Mayenne.
Samuel Meignan, je suis directeur général de la coopérative Daisy West. Nous sommes une coopérative qui est née de la fusion de la coopérative Copedom, qui était la coopérative de déshydratation de fourrage d'Ille-et-Vilaine, avec la coopérative Codema, qui était la coopérative de déshydratation également, basée en Mayenne. Quelle est l'activité première de Daisy West? C'est la conservation et valorisation des fourrages, essentiellement à base de luzerne. En complément, on a les activités de déshydratation de maïs, de riz gras. Et au fil des années, nous avons développé, en lien avec la transition énergétique de la coopérative, on a développé la production de granulés de bois, qui viennent compléter les activités saisonnières agricoles.
Est-ce que de plus en plus d'agriculteurs se tournent vers cette culture-là ou est-ce qu'il y a encore des freins et quels sont-ils?
On a toujours un mouvement de va-et-vient, hein, je dirais, au niveau de nos adhérents. On constate un changement de génération actuellement. Donc les parents étaient convaincus de la luzerne. On a souvent les jeunes qui reprennent et qui se disent on va faire autre chose. Et je dirais ce qu'on constate actuellement, on a plutôt un retour vers la luzerne. Donc je dirais le collectif a toujours raison, comme on dit, mais...
Avec Daisy West, on parle bien sûr de déshydratation de la plante. Alors, comment se passe ce processus et quels en sont les avantages?
Donc, pourquoi on déshydrate? L'objectif, c'est de conserver au mieux les qualités de fourrage sur pied. Le meilleur fourrage pour des vaches laitières, ça reste l'herbe pâturée. Sauf que l'herbe ne pousse pas tous les mois de l'année. Il n'y a pas de pousse en hiver et l'été, on a une période sèche qui ne permet pas d'alimenter suffisamment le cheptel. La déshydratation, c'est une des techniques de conservation. Par contre, l'avantage de la déshydratation, c'est la seule technique qui permet de conserver l'intégralité de l'herbe ou de la luzerne sur pied. C'est-à-dire on va conserver à la fois les valeurs alimentaires, que ce soit les protéines, les glucides, les macroéléments, mais également les vitamines et les caroténoïdes grâce à la stabilisation du produit rapide. L'inconvénient de notre activité, c'est que l'on a besoin d'un apport d'énergie pour stopper tout phénomène de dégradation. Aujourd'hui, la coopérative a terminé sa transition énergétique puisqu'on est 100% en énergie renouvelable pour la partie thermique, avec des cultures énergétiques dédiées, la valorisation du bocage local et également sur l'usine de Changé où on valorise l'excès de chaleur de la boucle de chaleur de Laval Aglo.
On a pu le dire, la coopérative Daisy West se trouve sur deux sites, Domagné en Ille-et-Vilaine et Changé en Mayenne. Est-ce que ces deux sites produisent de la même manière?
Domagné et Changé, on produit la même chose, oui. On est simplement, bon, les usines n'ont pas le même âge et les technologies ont évolué et se sont adaptées, notamment sur celle de Changé. On a adapté l'usine pour pouvoir valoriser la vapeur qui est excédentaire à certaines périodes de l'année sur la boucle de chaleur de Laval.
En ce qui concerne ces questions de gestion d'eau et de limitation des intrants chimiques, est-ce que, d'après vous, il y a d'autres choses à développer ?
On essaye toujours d'aller plus loin sur la réduction des produits phytosanitaires sur la luzerne. Notamment, on poursuit des essais régulièrement pour réduire les doses, voire avoir des alternatives en désherbage mécanique, de manière à se passer des produits phytosanitaires. Donc on a déjà fortement diminué, aujourd'hui on va jouer avec l'hygrométrie, etc., de manière à réduire au maximum les doses, en deçà des préconisations, et compléter par des alternatives mécaniques pour protéger au maximum la ressource en eau.
De votre point de vue, du point de vue de la coopérative, l'agriculture dans 10 ans, à quoi est-ce qu'elle ressemblera ?
Bonne question. On reste sur, je dirais, le Grand Ouest, hein, l'Ivienne et la Mayenne restent des départements laitiers. Je pense qu'on va le rester, même si on constate une forte diminution de l'élevage, même dans nos régions. Se pose la question de la souveraineté alimentaire. Ce qu'on voit se profiler aujourd'hui, on a plutôt les élevages qui se spécialisent sur la production laitière, et donc où les éleveurs sont très pointus à la fois sur la production animale, mais exigeants également sur la qualité de leur fourrage. Et quand on dit qualité des fourrages, c'est sensible également à la partie durabilité du système.
Pensée locale, un enjeu de société.
Vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Notre chroniqueuse du jour nous a rejoint, Soazic, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors on aime retrouver votre chronique, un autre écho de l'écho, et aujourd'hui vous nous donnez des nouvelles des prix Nobel d'économie.
Eh oui, parce que le 13 octobre dernier, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, s'est vu remettre le prix Nobel d'économie 2025 aux côtés de Joël Mokyr et de Peter Witt. Alors rappelons d'abord que le prix Nobel d'économie en tant que tel n'existe pas. En effet, dans son testament, Alfred Nobel n'a jamais mentionné de prix Nobel d'économie parce qu'il déclarait, je cite, « haïr l'économie du fond du cœur ». Alfred Nobel, bien sûr, ne considérait pas les sciences économiques suffisamment objectives et solides pour être mises dans la même corbeille à prix que la physique et la chimie. Ce n'est donc pas le prix Nobel d'économie qu'ont reçu les trois acolytes, mais le prix financé par la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Et alors, quel est l'objet de leurs travaux ?
Eh bien, la vénérable institution n'a vraiment pas fait preuve d'originalité cette année, puisque les découvertes de ces trois économistes cadrent en tout point avec la pensée dominante, en nous expliquant que, je cite, « le facteur clé de la puissance économique, c'est le leadership technologique ». Alors certes, le progrès technique crée des gains de productivité, ça c'est certain, et donc de la richesse, puisque les entreprises, pour un même temps donné, créent beaucoup plus de valeur. Mais en fait, le problème est ailleurs et il n'est pas posé par nos trois médaillés. Parce qu'en effet, rien n'est dit sur la question de ce que l'on fait de la technique et de ce que la technique fait à l'ensemble de la société. Autrement dit, nos économistes ne politisent pas la technique, même s'ils accordent, c'est vrai, ils s'accordent sur le fait qu'elle doit être encadrée par des institutions ad hoc. Ok, mais d'ailleurs, ils ne précisent pas vraiment ce que doivent être ces institutions. Or, la technique est avant tout, Margot, une chose politique. À qui appartient-elle ? Quels sont ses modes de régulation ? Privé, public ? Quel est son poids dans l'activité humaine ? Quel en est l'équilibre entre ses apports en bonheur et ses coûts sociétaux ? Et bien d'autres questions également.
Et donc, vous pensez que les concepts d'aliénation et de prolétarisation théorisée par Karl Marx semble aujourd'hui parfaitement adaptée à ce qui nous attend.
Mais oui, parce que Marx avait en effet bien analysé que pendant la révolution industrielle, la technique avait permis de remplacer le savoir-faire, dépossédant ainsi les ouvriers artisans de leur savoir-faire. Et donc, c'est cette perte de sens au travail que produit le remplacement de l'homme par la machine, façon Charlot dans les temps modernes, et non plus son prolongement par un outil, et c'est ça que Marx appelle l'aliénation. Et cette aliénation provoque alors la prolétarisation des travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs sont alors soumis aux cadences et aux contraintes d'un système qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne maîtrisent plus. Alors,
Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, le problème d'aujourd'hui, c'est que la machine ne remplace plus seulement le savoir-faire, comme sous la Révolution industrielle ou le Trente Glorieuses, mais également le savoir-penser, avec pour corollaire la dépossession de notre mémoire remplacée par de multiples supports numériques et en ligne de mire, une prolétarisation de tous, des cols blancs et des professions intellectuelles compris. Par exemple, je vous cite un exemple. Lorsque le président de la Banque centrale américaine, la Fed, avoue sans embâge qu'il ne comprend rien aux algorithmes qui régissent les marchés financiers, eh bien, au sens de Marx, on peut dire qu'il s'est prolétarisé. Et le problème tient au fait qu'aujourd'hui, ces supports de mémoire s'industrialisent à grande échelle, avec en plus un agenda économique très précis pour se substituer à nos propres capacités de décision. Dorénavant, c'est l'algorithme qui nous conseille et qui nous contrôle. Par exemple, aujourd'hui, 3 vues sur 5 cliquées sont proposées par les algorithmes. Et encore pire, si on se replonge dans la crise de 2008, c'est bien le trading à haute fréquence qui, en transmettant automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers à l'aide d'algorithmes, a en grande partie déclenché la crise financière. Les machines se sont trouvées capables alors d'intervenir en nanosecondes et elles sont devenues tellement autonomes qu'il a été impossible aux traders humains d'intervenir parce que sinon ils arrêtaient entièrement le système et il s'effondrait ce système. Les financiers se sont donc prolétarisés. Et de façon plus indicieuse, bien sûr, parce qu'il irradie l'ensemble de nos actions, le système de mémoire industrielle remplace désormais tous nos supports de mémoire humain pour en faire une profitabilité maximum. Que ce soit Google, Amazon et autres GAFAM, ils nous emprisonnent dans une bulle, nous dépossédant petit à petit de notre libre-arbitre et de notre réflexivité, hein, pour nous faire avaler un maximum de publicité dont ils tirent leur puissance. Alors bien sûr, depuis l'avènement de l'IA, on joue encore dans une autre dimension, bien évidemment. Mais cette chronique étant limitée, je dois passer. Alors certes, nos prix Nobel ont raison de soumettre la croissance au progrès technique. Et dans cette chronique, il ne s'agit d'ailleurs pas d'être pour ou contre la technique, mais il s'agit de savoir ce que l'on en fait, à qui elle profite, de quelle façon, et d'en mesurer les risques. Parce que n'en déplaise aux optimistes invétérés, eh bien au final, n'oublions pas que c'est Cassandre qui a eu raison.
Merci beaucoup, Soizic. La chronique à un autre écho de l'écho est à retrouver en podcast sur le site de l'autreradio.fr. À bientôt, Soizic.
À bientôt et bonne journée ensoleillée, mais un petit peu trop chaude quand même pour la saison.
Oui, oui.
Et c'est sur l'autre radio.
L'AJT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mélanie Alétru de nous avoir accordé ce moment. Merci à Soizic, notre chroniqueuse du jour. Et merci à Lénaïk Folzour qui signe la musique originale de cette émission. Ça continue sur les ondes de l'autre radio à 19h, place à Novorama, votre rendez-vous des nouveautés indie rock, pop et électro. Chaque semaine, l'équipe nous fait découvrir des albums fraîchement sortis, des pépites inattendues et une interview d'un artiste ou groupe émergent. À 21h, cap sur la scène hexagonale avec Noiserus, une émission entièrement dédiée au groupe français qui bouscule les codes et redonne des couleurs au rock indépendant. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. Nous parlerons santé des musiciens à l'occasion du forum sur la santé des musiciens qui aura lieu ce lundi 17 novembre à Laval. D'ici là, trouvez un peu de beau dans le bazar du quotidien, c'est souvent là qu'il se cache. Et s'il vous plaît, faites-le bien.
Alors Mimi, on leur dit au revoir ?
Oh non, juste à demain !